avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. J'ai l'impression qu'à la rentrée, vous serez millionnaire, Louis-Marie.
Ah oui ?
Vous savez pourquoi ? Vous êtes le fameux inventeur de la crème solaire, qui va être très utilisée cet été.
Vous êtes très drôle.
Il y a aussi les missiles.
Oui, oui. Et si je vous dis que ma fille s'appelle Ambre ?
Ah oui, oui. On est dans le jeu de mots.
Oui, d'accord. Oui. Mais enfin, ça, tous les auditeurs ne sont pas en mesure de comprendre cette belle plaisanterie que vous nous assénez, mon cher Laurent Martin. Alors, malgré la chaleur, vous venez jusqu'ici et vous allez nous conseiller quelques films à voir à la télé.
On commence les rediffusions de l'été, donc c'est très difficile de trouver de bons films de cinéma à la télévision. J'en ai déniché 4, dont un chef-d'œuvre à ne pas manquer. Et puis on peut éteindre tous nos écrans. Et puis des conseils pour cet été, il y aura 2 conseils de lecture.
Et oui, c'est parce que vous conseillez les livres à glisser dans son sac pour aller quand on va à la plage.
Exactement.
Ou si on fait une balade en montagne, on a toujours un moment où on s'arrête en tout cas.
Oui, ou qui peut servir d'oreiller pour dormir sur la plage.
Oui, c'est
pour
intéressant.
Pour se faire de l'ombre,
oui.
Pour s'éventer.
Bon, y a énormément de possibilités avec un livre. Avec nous aussi, celui que tout le monde nous envie, en tout cas toutes les auditrices, lui qui règne sur l'atelier de la mécanique cinématographique. Son retour de manivelle, c'est lui, Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Comment allez-vous, Guillaume ?
Eh bien, très bien, et on va profiter, je pense, de la fraîcheur au cinéma, on en a bien besoin. Ça tombe bien, il y a la fête du cinéma à partir de dimanche.
Oui, à partir de dimanche, du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet, les séances seront à 5€ dans un cinéma près de chez vous.
Moi, je vais vous proposer une séance gratuite en plein air, entrée libre et gratuite demain. Pour la dernière émission, on a mis les petits plats dans les grands. Un vrai bijou de film d'animation, plein de surprises et de chansons drôles et émouvantes.
Ouh là 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 là, quel teaser, vous nous faites saliver, encore avec la salive qui nous reste.
Oui, il ne reste plus grand chose, la gorge un peu sèche.
Oui. Lui, il n'a pas la gorge sèche, notre homme de loi des séries va ouvrir son tribunal, et encore une fois, il ne sera pas question de séries. Ah, en peu de temps, il parle 2 fois de cinéma, et il faut dire que, et vous en souvenez, il avait été... très accroché.
Dithyrambique
avec la bataille de Gaulle partie 1, l'âge de fer. Et cette fois-ci, il va nous parler de la bataille de Gaulle partie 2. J'écris ton nom, le film d'Antonin Baudry. Vous allez nous le dire, mais je vous devance un peu, vous le répéterez. Le film d'Antonin Baudry, la partie 2 de la bataille de Gaulle, sort au cinéma vendredi prochain, 26 juin. Et donc, notre homme de loi des séries, Grégory Com, là, a revêtu sa tenue d'avocat la plus belle, parce que il y a de grandes chances qu'il soit dithyrambique, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, en tout cas avant d'avoir écouté la chronique de Grégory Com. Dans le panier de l'ouvreuse de ce soir, vous retrouverez les rubriques que vous avez là. Coutume de consumer. Oui, ça se consomme.
Vivement les vacances, oui, je crois qu'on en a besoin.
C'est bien la dernière de la saison.
C'est la dernière.
De consommer à cette heure-ci. L'ouvreuse va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran avant vos sages conseils de cinéma à voir à la télé. Et puis, on a toujours, en fin d'émission, des coups de cœur parce qu'on a envie que vous alliez voir des films ou que vous alliez dans des manifestations de notre paresse. Ce soir, les coups de cœur seront importants parce qu'on va en faire pour la fête du cinéma. Vous allez pouvoir aller au cinéma pour une somme modique. On le rappelle, 5€. Et la cerise sur le gâteau, c'est nos deux invités. Ce sont nos deux invités qui viennent nous parler des vidéophages et de la 25e fête de la musique. Jean-François Manneville, chargé de com' de cette belle association. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à toutes et tous.
Et puis il y a également, vous avez raison Laurent, vivement la fin.
Oui, ça va être dur à finir l'émission.
Ça va être difficile. Lisa Gary qui est, ben dites-nous ce que vous êtes là. Allez, dites-le nous.
Je suis service civique en communication et je travaille avec Jean-François qui est chargé de communication. Et juste pour rappeler, c'est la fête de l'image.
Et qu'est-ce que j'ai dit?
Je me suis... de la musique, c'est passé.
Ah oui, c'est passé.
Ah, il y en a une qui suit.
C'est bien. Vous voyez la chaleur. C'est la chaleur. J'ai dit la fête de la musique. Et pourtant, j'ai tout sous les yeux. Fête de l'image. Alors, à ce propos de fête de l'image, c'est important. Parce que quand on le dit, fête de l'image, on pense à une jolie fête. Il n'y a pas de raison de pas y penser. Mais vous écrivez cette fête de l'image, F-A-I-T-E-S. En fait, c'est une injonction à faire de l'image. Alors, expliquez-nous tout, Jean-François.
Ben exactement. Le principe, c'est qu'on est dans une forme de co-construction avec les publics. La particularité de la fête de l'image, donc il y a un festival d'art visuel en plein air pendant 2 jours et gratuit sur participation libre, c'est que le festival est itinérant, donc chaque année il s'implante dans un quartier différent de Toulouse pour rencontrer de nouveaux publics, de nouveaux partenaires et co-construire une édition unique qui reflète le quartier dans lequel il s'est installé.
Alors, il y a un très bel édito dans le programme signé Vincent Camus. Et le thème de cette année, c'est en tout cas ce qu'on peut supposer en lisant cet édito, « Quand mon cœur fait boum ». Comment vous avez eu ce coup de cœur, ce coup de boum ? Lisa, vous avez une idée, vous ?
Alors c'est pas moi qui ai eu le coup de cœur ou le coup de boum, mais c'est plutôt une thématique générale pour inviter les artistes à penser à une création autour de cette thématique-là. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette thématique s'appelle « Quand mon cœur fait boum ». C'est déjà une explosion de création et aussi on est au centre de la ville de Toulouse. C'est aussi comme ça que je le vois, peut-être qu'il y aura des définitions différentes. En tout cas, pour moi, l'île du Ramier, là où ça a lieu, c'est le centre et le cœur de Toulouse. C'est aussi là où était... Il y a un rapport avec ça. Et aussi, le parc de la Poudrerie, c'était là où était... confectionner les poudres d'explosifs, c'est ça. Donc il y a plusieurs échos à cette thématique.
Alors il y a de bien belles choses que vous proposez justement au parc de la Poudrerie. C'est pas un hasard. Vous bâtissez le programme, si on peut parler ça, de programme, vous le bâtissez comment, Jean-François Manneville?
Alors chaque année, on lance un appel à projet autour de la mi-décembre. On essaye d'avoir une programmation qui soutient les artistes qui nous accompagnent depuis plusieurs années et qui donne aussi, qui ouvre la porte à des nouveaux artistes régionaux pour leur permettre de créer de nouvelles propositions artistiques soit sur la thématique, soit de nous présenter des créations existantes. L'enjeu, c'est qu'on ait un coup de cœur, qu'on ait envie de défendre ce que les artistes nous amènent et que ça fasse sens avec notre démarche, donc artistique, écologique et sociologique, puisqu'on est dans une approche d'éducation populaire.
Alors, il y a des expositions, donc, alors, dessin, peinture, photographie, il y a aussi des installations, mais dans l'exposition, il y a un nom qui m'attire, et pour cause, puisque elle était là à votre place l'année dernière, Lisa Garicama, à Maya Sangeli, eh bien, vous exposez certains de ses dessins, et c'est à elle qu'on doit aussi le magnifique graphisme de votre programme.
L'affiche, oui, qui est magnifique.
Et donc, elle n'est pas tout à fait partie, finalement, à Maya, Jean-François.
Non, et ça nous fait très plaisir de pouvoir continuer à l'accompagner cette année sur une nouvelle édition de la Fête de l'Image. Amaya, donc, c'était la volontaire en service civique que j'accompagnais l'année dernière, qui était précédemment tatoueuse et qui dessine et peint aussi. Et cette année, elle a répondu présente pour faire le visuel de cette édition de la Fête de l'Image. Et nous, c'est une reconnaissance de voir l'accompagnement qu'on a pu avoir sur une année avec elle et de continuer à l'encourager, puisque non seulement elle a fait le visuel de cette année, mais elle va être artiste avec une exposition qui s'appelle Suspendre l'intérieur et qui est basée sur des dessins.
Quand on fait partie de l'équipe qui pense à une telle manifestation, comment, quand la manifestation a lieu, on participe? Lisa Gary, vous allez participer comment? Vous allez dessiner, vous allez peindre, vous allez participer aux ateliers.
Je vais faire le maximum que je peux, mais en termes de participation et d'interaction avec les artistes que j'aurais déjà rencontrés préalablement, mais moi je vais surtout continuer mes missions en communication et en médiation, donc coordonner avec les artistes, l'équipe avec les artistes, et prendre des photos, des vidéos, raconter tout ce qui se passe, quoi.
On va continuer cette conversation passionnante avec Jean-François Manneville et Lisa Garrick, mais maintenant, c'est le moment de regarder un film. Allez, installez-vous confortablement, vous êtes au frais. Le noir est fait. Ah, allez, allons-y.
Voilà, tout le monde est passé, monsieur Moon.
Très bien, faites-les tous revenir sur scène, mademoiselle Crowley, on va...
Pourrions-nous avoir tout le monde sur scène, s'il vous plaît? Tout le monde revient sur scène pour la sélection.
Ok, merci, mademoiselle Crowley.
Je vous en prie, monsieur Moon.
Ok, voyons ça. Je prends... vous trois.
Oui, oui.
Lequel de vous deux est la fille?
Ah, MDR.
Chante trop fort, place mal sa voix, mais néanmoins prometteuse. Bienvenue parmi nous.
Cool, on pourrait accepter.
Non, non, je ne veux qu'elle, pas toi.
Quoi?
Ok, tous les autres groupes, merci d'être venus et bonne chance. Ne soyez pas déçus, les amis, il y aura une remise de 10% sur le prix des billets pour tout le monde.
C'est ça, merci beaucoup.
Et est-ce que nous aussi, on aura une remise de 10% sur les billets pour aller voir ce spectacle, Guillaume Sidom?
Et bien sûrement. Pour Tous en scène, donc film d'animation signé Garth Jennings, sorti sur vos écrans en 2017. Ce film d'animation est un enchantement. Et si ce soir, autour de la table, nous chantions et dansions comme des gorilles ou une souris, voire comme une éléphante, plutôt comme deux cochons, surtout capables de faire hurler de rire enfants et parents, cette scène hilarante est donc extraite du film d'animation Tous en scène, soit The Voice, chez nos amis les bêtes.
Alors, ça signifie que tous les personnages sont des animaux?
Et absolument, à commencer par Monsieur Moon, vous avez écouté sa voix, un koala sympa, propriétaire d'un grand théâtre en train de s'effondrer, et qui, tout à coup, pense avoir l'idée de génie d'organiser un grand concours de chant. Un concours de chant, rien de plus classique, me diriez-vous, avec 100 000 dollars pour le gagnant, ça l'est moins. Et improbable, puisque le koala ne possède absolument pas cette somme, il n'empêche qu'une telle promesse rameute les foules, défile ainsi sur la scène du théâtre en périple des crevettes facétieuses, Gunther le cochon hyper souple, des grenouilles très chic, quatre tortues en costume, un bison rappeur, trois lapines très sexy, un lama mou, voire très mou, ou encore un gorille romantique, tous très doués et reprenant un répertoire de 65 tubes de Frank Sinatra à Lady Gaga, autant dire que la bande originale concourt à la magie du film.
Bah, l'histoire ne se résume pas à ce concours de chant.
Des péripéties rythment en effet la vie artistique de nos héros, des héros affublés de qualités contre-intuitives, l'éléphant est peureuse, la souris arrogante, le gorille fragile émotionnellement. Leur participation à ce concours n'est qu'un point d'entrée pour évoquer plutôt le pouvoir de la créativité et la nécessité de travailler quand même quand on a du talent et l'indispensable confiance en soi, vous savez, qui vous permet de vous surpasser. La truie Rosita, je suis sûr que vous allez l'adorer, doublée par la chanteuse Jennifer et la maman de 25 cochonnets, une mère au foyer un poil dépassée, la charge mentale elle connaît, le plaisir de la scène pas encore, et pourtant eh bien elle rêve de devenir chanteuse, elle doute, elle n'a plus le feu sacré, ça fait belle lurette qui ne brûle plus, je ne suis même pas capable de compter les pas, dit-elle à Gunther, qui est doublé, soit dit en passant, par Laurent Gérard, et lui réplique, il faut oublier de compter les pas, il faut juste que chaque morceau de ton corps s'envahisse de musique. Rosita parviendra-t-elle à retrouver sa motivation? Va-t-elle s'élancer sur la piste telle Taylor Swift pour une reprise endiablée de Shake It Off? Alors, pourquoi y a-t-il autant de chansons dans les films d'animation? Je me suis posé la question en préparant cette chronique et je me suis rappelé que Walt Disney lui-même disait qu'un film d'animation quelconque pouvait devenir grandiose grâce à la bande-son. Paraît-il qu'il accordait même une bonne part du budget de ses films à la création de ses chansons. Tous en scène n'est pas un Disney, vous le savez, mais il répond à la même règle. Si on coupe le son, il perd tout son intérêt. Alors profitez, dansez et chantez ce film d'animation du studio Illumination, à qui on doit notamment un Moi, moche et méchant et les mignons, est un ravissement, une suite de séquences enjouées succédant à des moments d'émotion qui feront naître une petite larme dans les yeux des enfants et même des grands. À retrouver donc ce jeudi 25 juin, 22h, en cinéma en plein air, place des Papyrus à Toulouse, entrée libre et gratuite dans le cadre du Ciné sous les étoiles. Retrouvez toute la programmation sur metropole.toulouse.fr/ciné-sous-les-étoiles et en Blu-ray et DVD chez Universal. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
to the fire, got burned, got broken down by desire. I tried, but the smoke in my eyes left me blurry.
Dans la VO, ça claque, et c'est la voix de Scarlett Johansson qui double H, la fameuse Porky Pig. Ah ouais, quel est le garçon, MDR. C'est elle, la Porky Pig, qui joue du hard rock. Écoutez la guitare. Et une Porky Pig qui fait des solos, ça blesse, ça lance les pics.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Tricot qui a écrit, composé la musique qu'on entend sur la bande-annonce qu'on peut voir sur le site de Fête de l'image des vidéophages, en fait. Hein, c'est à vidéophages qu'il faut aller
chercher. Lesvidéophages.org.
Aller chercher tout ce qu'il faut savoir sur cette fête de l'image qui s'ouvre ses 25 bougies cette année, donc un anniversaire avec nous, Jean-François Manneville et Lisa Garrick. On a été restés aux expositions, mais dans cette fête de l'image qui se tiendra donc les 3 et 4 juillet prochains, c'est un vendredi et un samedi, il faudra aller au parc de la Poudrerie, participer à des ateliers. Alors les ateliers, comment vous les imaginez ?
Alors on parle de petite fabrique artistique parce qu'on est sur des ateliers où il y a toujours de la création. L'idée c'est soit que les gens viennent, participent et parfois repartent avec quelque chose, sinon laissent leur trace sur une œuvre collective. Cette année on a plusieurs ateliers, de la sérigraphie, de la découpe laser, de la peinture collective, du collage. De l'éducation aux images avec du stop motion, c'est-à-dire du cinéma d'animation. Et on a aussi un atelier performatif de micro-édition sérigraphiée. Bon, celui-là, je ne vais pas trop pouvoir vous le décrire en détail parce que ça va être une découverte pour moi aussi. Et on a aussi de la photographie artisanale avec du ferrotype.
Ouh, ça fait un beau programme et c'est très varié comme art, Guillaume Sidome.
Oui, j'ai lu près de 40 projets initiés par 56 artistes, un panorama diversifié. Donc, comment vous avez sélectionné ces projets et ces artistes ?
Ça a encore augmenté, ça ne fait qu'augmenter. On a donc 42 projets, 56 artistes. Initialement, on souhaitait en avoir moins, réduire un peu la voilure et puis on se laisse un peu déborder par l'envie d'accueillir tous ces artistes. Le choix, c'est d'avoir un festival protéiforme, multidisciplinaire, avec des propositions variées, différentes, pour que chacun s'y retrouve. L'idée, c'est que le festival est très dense. Il y a des programmations différentes sur les deux jours. Donc chacun se fera son expérience spécifique du festival. Le but, c'est pas qu'il y ait un parcours tracé où chacun voit absolument tout ce qu'on propose, mais plutôt que chacun ait son expérience unique et qu'il en retire un souvenir et qu'ensuite il en parlera avec d'autres personnes.
Un souvenir comme se faire des images, en fait. Faites de l'image, c'est aussi se faire des images dans la tête.
C'est ça.
Vaste programme. Les installations, il y en a aussi. Alors, dites-nous ce qu'est une installation, Lisa. Non ?
Oui. Les installations, il y en a autant qu'il y a de manières d'exprimer ce qu'est une installation. Franchement, là, il y en a plein que moi, je ne peux pas décrire parce que justement, elles sont préparées pour le festival. En tout cas, c'est des propositions artistiques sur la thématique. Ça peut être des photographies, ça peut être des installations interactives.
On peut même traverser un tableau.
On traverse un tableau, ouais. Où on peut voir notre squelette à travers. Mmh. Enfin, il y a vraiment des tas d'installations différentes. Donc, décrire ce que c'est, bon, c'est...
Oui, mais c'est pour donner une idée de ce qu'est une installation. La différence entre une exposition et une installation. L'installation, il y a quelque chose où le spectateur, lui, se plonge même dans l'œuvre physiquement.
Interactivité, ouais, peut-être.
Il y a une interactivité. La particularité du festival, c'est qu'il est de jour et de nuit. Donc on commence la journée avec les ateliers, les expositions, puis la nuit arrive et là le parc est mis en lumière. Petit à petit, on a des installations donc, qui vont être visibles que de nuit, autour de 22h. Et la particularité, donc on est sur de l'interactivité, effectivement. Les installations, c'est dur d'en parler parce que c'est... Pour la grande majorité, c'est des créations originales. Donc nous aussi, en tant qu'organisateurs, on va les découvrir pendant le festival. Il y a une création qui est faite par un membre des Vidéophages qui s'appelle X-Bones Experience. C'est ce que vous mentionnez, c'est les squelettes. Donc c'est une sorte de grand tableau sur lequel, quand les spectateurs, le public va passer, leur corps va être transformé en squelette. Donc ça, c'est toujours...
C'est le fameux rayon X, en fait.
Un peu, c'est ça.
Oui, l'installation, en plus, l'installation de... enfin, je pense, hein, vous me direz si je me trompe, que l'installation d'un artiste est forcément différente d'une exposition à une autre. Quand il la réinstalle, elle n'est peut-être pas forcément exactement la même. Et en plus, elle peut être originale quand elle, comme vous, elle n'a pas été installée ailleurs, si on peut dire ça comme ça.
Oui, la particularité, c'est que chaque artiste est accompagné d'un membre du festival pour l'installation de son projet, donc que ce soit les expositions ou les installations, pour valoriser le parc dans lequel on s'installe. C'est-à-dire, là, il y a eu des réunions avec les artistes qui ont navigué dans le parc, et certains ont eu un coup de cœur pour un arbre ou un mur ou un petit bosquet, et ils ont dit, c'est le mien, je veux que mon installation, mon exposition, elle soit là. Et là, on va les accompagner pour faire la création, qu'elle magnifie le lieu. Et les installations... elles sont interactives à la manière des ateliers, les expositions. Par contre, elles sont aussi mises en scène d'une façon unique pendant le festival.
Et il y a également des performances. C'est encore quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est qu'une performance, Elisa Garrick ?
Il y a une performance cette année et c'est de la danse avec une projection. Attendez, je reviens à l'explication. C'est une performance de danse vidéo interactive.
Et donc on se retrouve à l'origine de la vie, c'est-à-dire au moment où il y a l'eau. C'est ça, dans cette performance. Et qui sera faite, je ne sais pas comment le dire, par l'artiste deux fois, hein, vendredi et samedi. Deux fois la possibilité de voir cette performance et fleuve. On va continuer notre conversation avec Jean-François Manneville et Lise Garrick, passionnante. Il reste encore à parler des projections, des ciné-concerts, parce qu'il y a du cinéma, et des apéro-concerts, bien sûr, mais pour le moment, c'est l'actu cinématographique avec vous, Laurent, et l'ouvreuse.
À l'affiche cette semaine, Les Caprices de l'Enfant Roi, le nouveau film de Michel Leclerc, qui a donc délaissé ses supermarchés, avec Artus, Julia Piaton et Franck Dubosc et Dora Tillier. 1651, Louis, pas encore 14, est un adolescent, alors que la Fronde menace, sa mère, Anne d'Autriche, décide d'exfiltrer son fils pour le mettre à l'abri et le remplace par un sosie. Un peu comme nous avec Guillaume, c'est pas le vrai que nous avons ici. On a peur qu'on nous l'enlève. Louis est confié par D'Artagnan à Cyrano de Bergerac, qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine, Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie, hein, la vraie vie des gens, hein, ses plaisirs, l'art, le travail, le courage, la stratégie, tout ce qui fera peut-être de lui un jour le roi soleil. Alors le ton est donné d'emblée, hein, Les Caprices de l'Enfant Roi est une histoire vraie, sauf pour les historiens, hein, c'est ce que dit Michel Leclerc. Alors, vous aimez les romans de Robert Merle, style Fortune de France, qui se déroule à cette époque, alors vous aimerez ce film. Voulez-vous changer des idées, car vous en avez marre des films sociaux ou qui vous racontent votre vie, alors vous aimerez ce film. Alors, reconnaissons que le genre KPP est tombé en désuétude quand même, hein, la délicieuse comédie historique hexagonale, façon Fanfan la Tulipe en 52, qu'on revoyait tous les Noëls, ne court plus les rues, de Cartouche de Philippe de Broca en 62 jusqu'à La Folie des Grandeurs de Gérard Rouy en 71, en passant par Le Bossu d'André Hunebelle ou Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapeneau en 71, bah, les films de KPDP ont été raccrochés dans les râteliers de l'histoire du 7e art comme de vulgaires rapières émoussées. Et donc, pour son premier film de KPDP, Michel Leclerc a choisi de jouer au Essi. Et si, pour échapper au complot de Mazarin, Anne d'Autriche avait demandé à D'Artagnan d'exfiltrer le tout jeune Louis XIV au Palais Royal? Et si D'Artagnan avait proposé à Cyrano de Bergerac de l'aider? Et si Cyrano avait décidé de le cacher incognito dans la fameuse troupe de Molière? Michel Leclerc et sa complice d'écriture Baya Kasmi s'aventurent dans ce milieu des figures du XVIIe siècle en restant fidèles à leur ADN, ce sens de la comédie qui aborde de front ou par la bande des sujets politiques ou sociaux, et ce, en tissant même des liens entre hier et aujourd'hui, sur la condition des femmes par exemple, ou même un clin d'œil assez malicieux au couple Macron. Donc vous voyez, les caprices ne se hissent certes pas au niveau des Mariés de l'an 2 par exemple, auquel on pense beaucoup en voyant ce film. La faute peut-être à une mise en scène moins virevoltante et à un tout jeune comédien un peu trop scolaire, un jeune roi, mais on ne boude jamais son plaisir devant la finesse des dialogues, la justesse du casting adulte, Artus en Cyrano, Nemo Schiffman en Molière, Julia Piaton en Madeleine Béjart et Franck Dubosc en D'Artagnan, D'Artagnan un peu décalé, et la gourmandise avec laquelle Leclerc célèbre le collectif, comme on l'a vu dans ses précédents films, Le Nom des gens ou Télégaucho. Le résultat tient donc du blockbuster de KPDP passé à la moulinette de l'esprit français. Leclerc a concocté de jolies embardées lyriques qu'il a saupoudrées de déguisements façon comédia dell'arte, tout en l'enrichissant de duels endiablés. Et sous ces airs de fantaisie historique, bah, le film décide une France éternelle qui a fière allure, un pays de théâtre, de fronde, de masques arrachés, de vérités dites de travers. C'est précisément cette circulation fluide de l'aventure, ce souffle épique, ces répliques enlevées qui donnent au film sa belle vitalité. Petite revue de presse sur ce film, une fantaisie digne d'une bande dessinée à consommer avec légèreté, selon Femme Actuelle. Et oui, je lis Femme Actuelle parce que je suis un homme actuel. La Croix bien aimée aussi, avec malice, Michel Leclerc signe un film de KPDP, matinée d'humour, et fait renaître les films en costume, joyeuses et solaires. Comme lui Marie, de Philippe de Broca et de Jean-Paul Rapeneau. Le Figaro bien aimé aussi. Le film n'appuie jamais sur son propos, lui préférant la satire, le burlesque ou la drôlerie féroce. Petit bémol chez Sud-Ouest, par Cédric Coppola, qui est souvent le petit-fils d'eux. Avec un tel micmac inventif, assez osé sur le papier, on se dit que les caprices de l'enfant roi a les qualités pour être un divertissement délirant. L'ennemi est que Michel Leclerc est constamment dans un entre-deux, ne parvenant pas à trouver le bon équilibre entre un tempo enlevé et sa patte autoriste. Télérama Moisé, mais aussi à l'arrivée, c'est comme si les acteurs ne jouaient pas dans le même film, tout en faisant des tonnes. À l'affiche aussi, cette semaine, on peut voir Les Parfaits, Arnaque en famille de Ludovic Bernard. On peut voir L'étrangère de Gaïa Gili. On peut voir Seuls les rebelles de Daniel Arbide. La bataille de Gaulle, partie 2, J'écris ton nom d'Antonin Baudry. Le film sera disponible à partir du 26 juin. Et ne zappez pas, car Grégory Combe va vous en parler dans quelques minutes. On peut voir Éruption de Peter Hoss. Et on peut voir Mas Palomas de José-Marie Gonega et Aitor Arregui. Nous sommes sous le soleil brûlant de Mas Palomas aux îles Canaries. Et Vicente savoure depuis 25 ans une retraite insouciante. Mais un accident l'arrache à son paradis. Rapatrié à Donostia, il est placé par sa fille dans une maison de repos. Louis-Marie, vous avez rencontré l'un des deux réalisateurs, José-Marie Gonega.
Oui, José-Marie Gonega. Je ne sais pas comment il faut le dire parce qu'il est basque. Ils sont deux, Aitor Arregui et l'autre co-réalisateur. Il était présent tout seul à Cine Espagnol, la dernière édition du Festival du film espagnol et portugais de Toulouse en octobre dernier. Et le film est plutôt touchant, c'est très, très bien fait. Vous savez, c'est l'histoire Mas Palomas, vous l'avez dit, c'est aux Canaries. Et aux Canaries, Mas Palomas, c'est gay friendly. C'est une ville qui accueille tous les gays, tous les garçons. Et là, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et on peut sortir du placard, c'est l'expression, vous voyez, comme on veut, c'est-à-dire révéler son homosexualité au grand jour. Oui, mais le voilà retourné au Pays Basque et il retourne dans le placard. Alors que, en même temps, on le met dans un EHPAD. Ça fait un peu beaucoup pour lui et c'est compliqué pour sa vie, ce qu'il a été, et sa fille, parce qu'il a une fille, oui. Il a découvert son homosexualité après avoir épousé une femme, après avoir eu un enfant. Et c'est très bien fait, très touchant, la façon dont ces deux réalisateurs racontent l'histoire. Et je vous propose d'écouter José Marie Goenaga nous expliquer comment il a eu l'idée de parler de ce film, de raconter cette histoire. C'est Alba Paz qui assure la traduction.
Yo creo que cuando yo leí un artículo sobre la gente del colectivo LGTBIQ+, que cuando son mayores y ingresan en una residencia vuelven al armario en cierta forma.
Le déclenchement de cette histoire, ça a été un article que j'ai lu où qui parlait des gens âgés qui devaient revenir, enfin qui devaient s'interner dans des EHPAD et qui devaient malgré eux revenir dans les placards. Donc ça m'a beaucoup interpellée parce que moi-même, moi je suis sortie du placard un peu tardivement, pas 50 ans comme le personnage, mais quand j'avais 30 quelques-uns. Et moi, j'avais pas encore jusqu'à présent réfléchi à qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie, qu'est-ce qui se passe si on revient à cet enfermement. J'ai eu envie de raconter l'histoire de tous ces processus, de parler des peurs, des doutes, des hésitations, de comment on vit nous-mêmes l'homophobie intériorisée et comment on vit nous notre rapport à notre condition sexuelle.
Pues los pequeños miedos, las pequeñas dudas, cómo vives tú a veces tu homofobia interiorizada, cómo gestionas un poco tu condición sexual, ¿no? De cara a tu entorno. Y bueno, eso fue un poco la razón.
Y voilà, quelles ont été les raisons de ce choix et de d'écrire ce film très, je le disais, touchant, cet homme qui, Vicente, qui est prêt, il retourne dans le placard, mais va-t-il réussir à nouveau à assumer et à montrer ce qu'il est compliqué dans un EHPAD où le machisme est assumé, par contre, par et le personnel et les occupants, enfin les pensionnaires de cet EHPAD. C'est beau, on passe de la lumière des Canaries à la fraîcheur de la mer Cantabrie, au Pays Basque, et c'est très bien fait et très bien interprété. C'est un film remarquable à ne pas manquer.
À l'affiche aussi cette semaine, un film d'horreur, Noise, de So Junkin, qu'on peut voir au CGR Blagnac. Et pour finir, Des Mignons et des Monstres, film d'animation de Patrick Delage.
Cette chanson sortie en 1976 signé, alors je me lance, Alicia Majewska, et je me garde de vous donner le titre, il est trop compliqué pour moi, c'est du polonais. On l'entend donc, cette chanson, dans le film de Peter Hoss, Éruption. Et pourquoi donc? Eh bien parce que l'action de ce film se situe à Varsovie, en Pologne, où une jeune femme est partie avec son amie, et là elle retombe sur une amie avec laquelle elle a eu une aventure amoureuse. C'est compliqué d'être avec les deux à la fois. Ah, c'est Charlie XCX, je ne sais pas si je le dis convenablement, vous savez, l'auteur-compositrice britannique qui s'essaye donc au cinéma en tant qu'actrice, mais aussi en tant que co-autrice. Le film, je le rappelle, son titre, c'est Éruption de Pete Hoss.
Pierwszych wrócić znów.
On laisse la Pologne pour aller retrouver De Gaulle dans cette bataille, et là, sa deuxième partie, J'écris ton nom, qui est le sujet de la plaidoirie de notre homme de loi des séries, qui une nouvelle fois s'essaye au cinéma.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, je vous remercie vraiment de me permettre de parler aujourd'hui d'un film et non d'une série télé. En effet, j'ai eu la chance de voir en projection presse La bataille de Gaulle partie 2. J'avais parlé il y a peu de la partie 1. Donc partie 2, J'écris ton nom, qui sortira vendredi au cinéma. La date a été avancée notamment pour profiter de la fête du cinéma. Et la question que je me posais, vous savez, j'ai adoré la première partie, est-ce que ça serait du même niveau? Est-ce que c'est à la fois un grand spectacle, mais intelligent? Eh bien, je vais vous répondre de suite, c'est encore meilleur que la première partie. Alors, comment est-ce possible? Déjà parce que le sujet est encore plus dur. Là, on a un De Gaulle qui est certes installé, reconnu par la communauté internationale, entre guillemets, mais les Américains n'en veulent pas. Ils veulent placer Giraud, joué par un Thierry Lhermitte incroyable, dans un rôle d'un militaire dépassé, mais arrogant. Et ils veulent le remplacer donc par quelqu'un qui serait à leur main, parce que c'est quelque chose qu'on apprend peu à l'école. Les États-Unis, enfin Roosevelt, avaient décidé d'annexer la France. C'est évidemment l'histoire vraie de l'Amgott, le fait qu'il voulait remplacer notre monnaie, le fait qu'il voulait mettre des militaires pour gérer nos préfectures. Donc tout ça nous amène à un pan de l'histoire qu'on connaît peu, et une lutte de De Gaulle pour notre indépendance. Il a dû lutter, et c'est là où on se rend compte qu'il a dû lutter de partout. Évidemment, sa relation avec Winston Churchill sera aussi centrale. Ça, c'est un premier pan de l'histoire. Le deuxième pan de l'histoire, nous allons suivre Leclerc dans ses batailles. Je ne vous spoilerai pas, mais évidemment, il y a une bataille centrale qui est extraordinairement bien réalisée, de niveau, alors on va dire américaine, mais on va dire non, de niveau d'excellence français. Peut-être, il peut y avoir une petite déception que d'autres batailles soient plus vite expédiées, notamment la finale, mais clairement, le budget ne permettait pas de faire un film de guerre avec plein de batailles de niveau. Il faut sauver le soldat Ryan. Pourtant, celle centrale, que je ne vous spoile pas là, est incroyablement réalisée, épique et dramatique. Et à côté, on va suivre Jean Moulin et la résistance, et comment justement il a réussi à faire en sorte que les différents mouvements de résistance s'allient et amènent un soutien déterminant à la politique de De Gaulle, avec toute la tragédie de Jean Moulin que vous connaissez. Et l'acteur qui joue Jean Moulin est exceptionnel, cette partie-là est magnifique. Donc ces trois parties sont de qualité égale et exceptionnelle. Et j'avoue, c'est trois films différents. On a en fait un film politique, une sorte de film d'aventure et d'espionnage, et un film de guerre et les trois sont maîtrisés. Les trois sont maîtrisés parce que le style du réalisateur nous permet en fait d'avoir un style, c'est un film avant tout humaniste. J'ai envie de dire, presque, comme dirait Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Donc on nous montre la pire face de l'humanité pour nous montrer comment l'espoir peut rejaillir des ténèbres. Et c'est là où le film est bon, c'est qu'en fait, il va nous donner toutes les clés de compréhension sans nous prendre pour des idiots. Et c'est ce que j'apprécie. Il va aussi mettre de la nuance dans tout parce que il va humaniser notamment les Italiens qui se battent contre Leclerc. Il va aussi nous expliquer pourquoi rapidement Roosevelt est comme ça avec la France. Et donc, il nous donne toutes ces clés de compréhension. Il nous montre aussi, par sa façon de filmer, le gigantisme de l'armée américaine déployée et à quel point effectivement nos efforts étaient incroyable, mais minime en termes technologie et en termes matériels par rapport au déploiement américain. Donc effectivement, ce film, il parle de la France, il parle de nous, il parle de toutes nos valeurs et tous nos démons actuels. Et c'est là où il est très fort, c'est qu'en fait, c'est un film puissamment d'actualité. Donc ce film est bon, il est même excellent. Et je vais aller plus loin, ça m'a valu quelques colibis sur les réseaux sociaux. C'est un film qui, pour moi, est le plus important au niveau français de ces 30 dernières années. Et j'ai envie de dire, Pathé, qui avait fait à l'époque, qui avait produit le Napoléon d'Abel Gance, n'avait plus cette ambition depuis très, très longtemps, et peut-être depuis le Napoléon d'Abel Gance. Donc, clairement, vous le savez, pour moi, c'est une réussite totale. C'est un film humaniste, c'est un film puissant, immense. Il faut aller voir ce film. Parce qu'en fait, ça montre que qui de mieux que nous pouvons raconter notre histoire. Et donc, il faut donner les moyens au cinéma français de raconter notre histoire. Il faut aller voir la première partie qui est toujours là et qui va rester un petit moment de Gaulle. Et la deuxième partie, car au fond, c'est notre histoire et c'est rendre service aussi au cinéma français. Et c'est se faire plaisir. Et en plus, il y a la clim. Voilà. Donc, dans cette période de chaleur, c'est toujours intéressant. Hydratez-vous et mettez-vous au frais. Je vous remercie.
Il est fort, notre homme de loi des séries. Il sait conclure. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, il n'a peur de rien, quand même. Jusqu'à féliciter Pathé. Mais bon, tant mieux. Ils font du cinéma et on est là pour en profiter. Toujours est-il que vous suivrez donc ces conseils, peut-être bien. Profitez de la fête du cinéma pour aller voir les deux volets. La bataille de Gaulle 1, c'est L'âge de fer. La bataille de Gaulle 2, c'est J'écris ton nom. Allez, on en a déjà parlé, mais il était... Oh, on pouvait pas ne pas passer les Undead. Ce soir, ce groupe complètement délirant qu'on peut découvrir dans le film de Brian De Palma, Le Fantôme du Paradis. Autrement dit, c'est mieux dans sa version originale, Phantom of the Paradise. Oui, attention, le paradis n'est pas celui qu'on croit, mais c'est un lieu où on fait de la musique. Le paradis, c'est le nom d'un grand auditorium, d'un théâtre. Et Brian De Palma, en 1974, mélange Le Fantôme de l'Opéra, La Damnation de Faust et même un petit peu le portrait de Dorian Gray pour nous livrer ce film que vous pouvez découvrir grâce ou redécouvrir, ça c'est ça qui est bien, grâce à la Cinémathèque dans le cadre de la programmation pop. Et ça sera pour jeudi 25 juin, demain, à 19h. Ne ratez pas ce film qui est un monument, qui a été, n'a pas marché à sa sortie et qui n'a pas été apprécié par les critiques. Et pourtant, après, le film a remarquablement bien marché. Allez le découvrir pour voir Paul Williams dans le rôle de Swan le méchant, qui a composé la bande originale du film. Ce qu'on entend là, c'est lui qui l'a composé, l'acteur principal même de ce film. On continue rapidement avec La vie privée de Sherlock Holmes ou comment Billy Wilder nous donne un aspect particulier de ce qui était nous décrit, ce qui était un petit peu la vie de Sherlock Holmes, mais celle qu'on connaît pas. Il aimait pas trop les filles. Peut-être qu'il aimait les garçons. Peut-être qu'il n'était pas très bon violoniste, peut-être qu'il n'était pas très bon enquêteur non plus. Billy Wilder joue sur tous les tableaux. Allez vérifier. En tout cas, vous passerez un excellent moment à la vision de ce film qui est proposé à la Cinémathèque dans le cycle Billy Wilder, vendredi 26 juin à 21h. Il y a un très beau documentaire concernant les 90 ans du Front Populaire, et ce documentaire s'appelle La vie est à nous, un film de 62 minutes dirigé par un film collectif qui était dirigé par Jean Renoir et qui a été tourné en 36, juste avant les élections qui ont amené le Front Populaire au pouvoir. C'est assez extraordinaire à découvrir. Donc c'est jeudi 25 juin à 20h30. Et puis encore une petite chose, la Cinémathèque, on a tout dit, sinon après au cinéma Pathé Labelle, vous retrouvez Christopher Nolan, on en parle beaucoup parce qu'on attend avec impatience l'Odyssée et Inception, son film sorti en 2010 avec Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard, est visible en VO jeudi 25 juin à 19h20 et samedi 27 à 21h45 au cinéma Pathé Labelle ou bien au cinéma Pathé Wilson le 25 juin aussi à 19h et le samedi 27 à 21h30 et aussi en version originale. Un très beau film de Denis Villeneuve, Prisoners, l'histoire de deux fillettes kidnappées et de leur père qui cherche à les retrouver. Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal et Viola Davis sont au générique de ce film que vous pouvez voir au cinéma Pathé Labelle dimanche 28 juin à 19h et La mort dans la peau pour redécouvrir Jason Bourne, le deuxième volet de ses aventures 2004, Paul Greengrass. Lundi 29 juin à 21h en version originale et c'est aussi au cinéma Pathé Labelle. Contre Pathé Wilson, il y a un documentaire dont vous êtes un spécialiste, Guillaume Sidom.
Spécialiste non, mais disons amateur de football passionné.
Spécialiste du ballon rond.
Voilà, alors juste pour préciser quand même qu'il est filmé en temps réel au cours du match entre le Real Madrid et Villarreal le 23 avril 2005. 17 caméras haute définition dans le stade Santiago Bernabéu de Madrid, capturant les moindres faits et gestes de Zidane. Prouesse technique, une sorte de jeu de rôle, 90 minutes d'un match et des contingences du réel, un temps mental aussi. On en sort esseuré et épuisé.
Laurent, qu'est-ce qu'il faut voir à la télé ?
Le cinéma, la télévision, garantie sans ballon rond. Hein. Ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Rosalie de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereskiewicz et Benoît Magimel. En 1870, Abel, un tenancier de bar, prend une décision audacieuse en épousant Rosalie, une jeune femme qu'il n'a jamais rencontrée. Or, Rosalie est une femme à barbe, à papa. Une rencontre au poil. En 2016, la danseuse a révélé le talent de Stéphanie Di Giusto et son art de travailler des sujets singuliers. Elle le confirme ici. Samedi, France 4, 21h, ce sera les Estivants de Valeria Bonatelleschi avec Pierre Arditi et Valeria Golino. Alors qu'Anna doit partir passer les vacances dans sa belle demeure familiale au sud de la France, Lucas lui apprend brusquement qu'il la quitte. Et là, c'est le drame. Une comédie de caractère au scénario léger qui vaut beaucoup par sa distribution audacieuse. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Dimanche, Arte, 21h, là, ce sera plutôt au niveau chef-d'œuvre. Scarface, votre film préféré.
L'un de mes films préférés.
L'un de vos films préférés.
De Brian De Palma.
De Palma.
Oui, pardon.
Avec Al Pacino et Michel Pfeiffer. Vous connaissez 1980, Tony Montana et son ami d'enfance, Manny Ray, quittent Cuba pour s'établir à Miami. Les deux hommes désireux de réaliser le rêve américain se retrouvent rapidement dans un camp de réfugiés où ils rêvent, bien sûr, d'une vie meilleure. Brillamment mise en scène, film culte, fascinant et démesuré, dans lequel Al Pacino livre une performance magistrale à ne pas manquer. Lundi, Arte, 21h, ce sera L'Éclipse, un film de 62 de Michelangelo Antonioni avec Alain Delon et Monica Vitti. Nous sommes à Rome en plein été et Vittoria fait la connaissance de Piero, incarné par Alain Delon, un séduisant agent de change dont le charisme et l'ambition ne la laissent pas indifférente. Dans un style lancinant et fascinant, Antonioni parle de solitude et d'incommunicabilité. Un grand moment de cinéma. Les conseils de lecture, ce sera Leçon de cinéma de Laurent Tirard. 39 cinéastes racontent ici leur méthode de travail. Écriture du scénario, découpage, direction des acteurs, répétition, improvisation, organisation du tournage, etc. On en apprend beaucoup sur les réalisateurs que l'on aime, et même ceux que l'on n'aime pas d'ailleurs. Un très beau livre, un prix sympa, 10 euros aux éditions Poche Nouveau Monde. Le deuxième conseil, ce sera un peu plus gros. Le cinéma de Clint Eastwood, d'Alberto Castellano. La vie et la carrière de Clint Eastwood, hein, à travers une biographie très détaillée et une filmographie mise à jour et exhaustive. Voilà, un très beau livre que vous retrouvez aux éditions Grémèze pour 22 euros. Tenez, Lisa, je vous l'offre. Voilà pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Sur la très belle musique signée Bernardo Bonetti pour le film de Pedro Almodovar, Femme au bord de la crise de nerfs, la Cinémathèque, vendredi à 19h. On retrouve nos amis vidéophages Jean-François Manneville et Lisa Garry qui vont nous parler des projections et des ciné-concerts qui nous attendent le 3 et le 4 juillet au Parc de la Poudrerie. Alors, qu'y aura-t-il de beau à voir sur les écrans ou l'écran que vous nous proposez?
Alors, je vais pouvoir vous parler des projections. Lisa pourra parler plutôt de la musique puisqu'elle est plus mélomane que moi. Au niveau des projections, donc les vidéophages, l'association s'est fondée sur la diffusion de courts-métrages dans des lieux un peu insolites comme des bars ou autres. Et aujourd'hui encore, donc plus de 25 ans après, on continue de projeter des courts-métrages. Actuellement, on est au bar Le Dada, quartier Arnaud-Bernard. Mmh. C'est le premier lundi du mois, c'est une rencontre en présence des réalisateurs et réalisatrices. Et le but, c'est d'avoir des soirées éclectiques avec des programmations diverses qui représente un peu toutes les facettes du cinéma, donc du documentaire, de la fiction, de l'animation, de l'expérimental, des bijoux de famille, comme on les appelle. Et lors de la fête de l'image, le court-métrage reste présent et le cinéma aussi. Et on propose deux programmations par soirée, donc quatre en tout, qui sont un peu les best-of de nos projections à l'année. Certains des réalisateurs et réalisatrices seront présents dans le public ou peut-être prendront la parole. Et donc ça va être une trentaine, quarantaine de courts-métrages. La plupart viennent d'Occitanie. C'est des films qu'on défend, certains de premiers réalisateurs, réalisatrices. Et on vous invite à venir les voir sur grand écran, puisque nous, quand on les projette, ça va plutôt être sur... avec des vidéoprojecteurs dans des petites salles, et là c'est l'occasion de les voir en plein air sous les étoiles, vraiment dans des conditions particulières ou avec un public assez admiratif, et nous les premiers on est ravis de pouvoir les revoir dans ces conditions là
Et si nous parlions de musique maintenant avec vous, Lisa Garrick?
Oui, alors du coup dans la partie musique il y a trois catégories, il y a les ciné-concerts, il y a les concerts au casque et il y a les apéro-concerts. Et donc, en fait, les ciné-concerts, c'est des artistes qui viennent en groupe. Il y en a trois, et le vendredi et le samedi, pour jouer. Et derrière eux, il y aura des projections, soit de courts-métrages, soit de vidéos, en fonction de ce qu'ils présentent comme style musical. Et ensuite, pour les concerts au casque, c'est une partie un peu en retrait dans le Parc de la Poudrerie, où il y a six artistes entre le vendredi et le samedi six groupes d'artistes qui vont présenter leur musique, et donc tous les spectateurs et spectatrices auront un casque pour écouter tout ça dans une partie un peu intime de du parc.
Un peu comme nous ici.
Les gens qui participeront écouteront les mêmes choses ou ce sera des choses différentes? Il pourra y avoir plusieurs personnes à écouter au casque. Les mêmes choses, des choses différentes. Je vois, de toute façon, il y a des choses différentes, donc c'est ce que vous nous avez dit. Et combien pourront-ils être à écouter au casque?
40, 50
Autour d'une cinquantaine. Ouais. La particularité, c'est que c'est joué en live. Les artistes sont là.
Ah.
Et les gens écoutent au casque. Et c'est aussi dans un enjeu éco-responsable, puisqu'on est dans un espace naturel et il faut préserver la faune. Donc il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux particuliers. On ne veut pas les faire fuir à tout jamais du parc. Donc le but, c'est aussi d'être respectueux.
Il reste. Donc c'est. Vous faites tous les vidéophages absorbe beaucoup de vidéos, comme leur nom l'indique, mais en tout cas, quand vous organisez des choses, c'est toujours remarquablement bien fait. Et on va s'y précipiter, donc, les 3 et 4 juillet prochains, sur l'île de du Ramier, au parc de la Poudrerie. Merci beaucoup à vous deux, Jean-François Manneville et Lisa Garrigue, d'être venus nous voir pour notre dernière émission de la saison. On est heureux de vous avoir pour nous accompagner vers les vacances. Et on écoute, tiens, New Order. Pourquoi on écoute New Order? Parce qu'ils sont dans Plus Fort que Moi, le film de Kirk Jones. Et puis on va vous donner nos coups de cœur, n'est-ce pas les garçons? On commence avec vous Laurent.
Les coups de cœur, ce sera pour Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc, La Bataille de Gaulle, et puis Fête de l'Image du 3-4 juillet sur l'île de Ramier. Ça m'a vraiment donné envie d'y aller.
Les Caprices de l'Enfant Roi, Plus Fort que Moi, Des Mignons et des Monstres, La Bataille de Gaulle partie 1 et 2, la 25e Fête de l'Image, 3-4 juillet, toute la programmation sur lesvideofages.org. Et puis évidemment la fête du cinéma de dimanche à mardi, 5€ la séance pour profiter du ciné au frais.
Les Caprices de l'Enfant Roi, Mas Palomas, Plus Fort que Moi. Les Mignons, j'aime bien comme ils parlent les Mignons, j'adore ça. Et la Bataille de Gaulle et surtout la 25e Fête de l'Image. On ira souffler les bougies avec vous Jean-François et Lisa du 3 au 4 juillet. 3 et 4 juillet, un beau week-end en perspective. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et pendant toute cette saison. On vous retrouve en septembre prochain pour une nouvelle saison qui va être extraordinaire. On va souffler quelques bougies, on vous dévoilera tout ça à la rentrée. Il est trop tôt pour en parler. Merci Laurent.
Merci à vous. Bonne année à vous.
Merci à vous.
Merci encore Jean-François et Lisa. Et à septembre prochain.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Présence auprès des personnes seules, pour vous accompagner pendant votre petit déjeuner, en voiture ou au milieu de la nuit, pour donner la parole aux acteurs de l'Église de notre région.